Vous êtes sur RTL.
8h. RTL Soir, Thomas Soto. Bonsoir Thomas.
Bonsoir Isabelle, bonsoir à tous et bienvenue dans RTL Soir. Il a un pied en Allemagne, un pied en France et l'Europe au cœur. Cette Europe qui ne fait pas la fière ces temps-ci avec sa piètre gestion des commandes de vaccins notamment. À 18h15, Danny Cohn-Bendit sera l'invité d'RTL Soir. Dans la foulée, c'est Philippe Cavrivière qui viendra nous aider à sourire de l'actualité et il y arrive plutôt bien le bougre. Et puis à 18h40, le témoignage de Roxane Guichard. Sa mère, l'écrivaine Anne Baer, gravement malade, a choisi l'euthanasie pour partir, c'est il y a 4 ans. Elle viendra nous raconter comment elle et sa famille ont vécu tout cela au moment où l'Assemblée débat sur le sujet. Bonsoir Amandine Dégo.
Bonsoir Thomas, bonsoir à tous.
On découvre avec vous les autres grands titres de l'actualité de ce jeudi 8 avril.
Et elle a une ce soir de bonnes nouvelles dans la lutte contre le Covid. Et oui, ça arrive. On a franchi aujourd'hui le cap des 10 millions de primo-vaccinés. Le porte-parole du gouvernement évoque par ailleurs des chiffres encourageants dans les départements semi-confinés depuis le 20 mars. Dans ce journal également, l'ENA qui change de nom et pas que. Et puis le gel qui a fait des ravages dans la Drôme. Certains arboriculteurs auraient perdu 80 à 90% de leur récolte.
Le gel qui a fait des ravages. Bonsoir Peggy Broch.
Bonsoir,
la météo
Thomas.
Pour demain, c'est pas terrible, parce que ça va se gâter encore.
Hein. Oui, avec l'arrivée d'une perturbation par l'ouest, un temps gris, pluvieux, surtout dans l'après-midi entre la Bretagne et les Pays de la Loire, entre le sud-ouest et le nord-est également, et sur le golfe du Lion, où le temps sera gris avec de l'humidité, un vent fort. Seules les régions de l'extrême nord et de l'est conserveront un temps sec et lumineux. Le tout sous des températures en hausse, plus de gelée, sauf sur l'extrême nord-est.
Ah, ça, c'est une bonne nouvelle.
Ça, c'est une bonne nouvelle, et des maximales qui seront comprises, pareil, qui vont remonter entre 13 et 22 degrés.
Merci, Peggy.
RTL Soir.
Mais d'abord, Thomas, vous aimez voyager ?
Oui.
Vous aimez les frites ?
Oui.
Les frites !
Eh bien, vous allez pouvoir concilier tout ça. Air France va en effet bientôt faire voler ses avions avec un carburant à base d'huile de friture. Oui, oui. Bonsoir, Arnaud Touche.
Bonsoir.
Tout ça est très sérieux. Et Arnaud, ça va même commencer dès ce mois-ci.
Oui, par exemple, des camions vont désormais récupérer les huiles usagées dans les cantines ou les collectivités. Il s'agit bien là de matières déjà utilisées et non pas d'huiles produites uniquement pour la consommation des avions. Ces huiles de friture, c'est un exemple parmi d'autres, sont ensuite transformées à la Med, dans les Bouches-du-Rhône, et à Oudal, en Seine-Maritime, chez Total. Et c'est à Oudal, justement, que le mélange entre le kérosène et les huiles transformées est effectué. Ce nouveau carburant est ensuite transporté jusqu'aux avions. Cela ne change rien pour les moteurs et les compagnies seront d'ailleurs obligées de l'utiliser. La loi leur impose en fait un minimum d'1% de biocarburant à partir de l'année prochaine, puis 5% en 2030. Elles peuvent bien entendu aller au-delà. Cela peut se faire en sécurité jusqu'à 50%. Mais soyons clairs, ce mix de carburant continue de polluer et son coût reste d'ailleurs prohibitif, jusqu'à 5 fois plus cher que le kérosène classique. Ce surcoût pourrait bien avoir un impact sur le prix de vos futurs billets d'avion.
Mais Arnaud, ça va sentir la frite partout ou pas ?
Alors non, j'ai pris des renseignements à ce sujet-là et effectivement, vu qu'il y a une dilution avec le kérosène, eh ben justement, le kérosène pourrait sentir un petit peu moins fort finalement, mais ça ne sentira pas la frite.
Ah, merci Arnaud Touche. Oh pardon, c'était facile.
Arnaud Touche, du service économie de RTL. Sur le front du Covid, à présent, ce nouveau cap franchi aujourd'hui.
Le pays tout entier vient de franchir les 10 millions de personnes qui ont reçu une première vaccination, c'est-à-dire que nous sommes à une semaine d'avance à l'objectif que j'avais fixé. Nous avons maintenant l'objectif des 20 millions qui se présentent à nous dans quelques semaines et je ne doute pas que grâce à cette mobilisation générale, nous allons l'atteindre.
Les chiffres annoncés, vous l'avez entendu par Jean Castex en déplacement cet après-midi dans le Val-de-Marne. Un peu plus tôt, c'était Conseil des ministres. À la sortie, Gabriel Attal, le porte-parole du gouvernement, a évoqué des chiffres encourageants dans les 16 départements où les mesures de freinage ont été prises dès le 20 mars dernier. Bonsoir Sophie Jousselin.
Bonsoir.
C'est quoi ces chiffres encourageants ?
Alors, l'absence depuis plusieurs jours de chiffres fiables sur les nouvelles contaminations suite à des problèmes techniques. On ne sait pas si le nombre quotidien de nouveaux malades diminue ou augmente. En revanche, deux indices sont à la baisse, signe d'un possible ralentissement de l'épidémie. D'abord, le taux d'incidence qui amorce partout une très légère décrue. Les derniers chiffres disponibles indiquent par exemple qu'il est passé en dessous de 500 dans les Hauts-de-France après être monté jusqu'à 525. Même tendance pour le taux de positivité à 8,3 aujourd'hui dans l'Eure contre 10,7 à la mi-mars. Si ces tendances se confirment, il faut être prudent, il devrait y avoir bientôt une répercussion sur les chiffres des hospitalisations hospitalisations et des réanimations qui sont pour l'instant toujours à la hausse, sauf dans les Alpes-Maritimes où on reste sur un plateau très élevé.
Merci à vous Sophie Jousselin. Puis de son côté, Roselyne Bachelot a donné de ses nouvelles via Twitter. Un premier message depuis 15 jours. « Heureuse de vous retrouver », écrit la ministre de la Culture. « Je reprends des forces chaque jour », poursuit-elle. Elle remercie au passage les soignants qui partout en France font un travail remarquable. Fermez les guillemets.
Les suites de cette affaire de dîner clandestin révélée par nos confrères d'M6 et une perquisition a été menée aujourd'hui au domicile de Pierre-Jean Chalençon. Sachez par ailleurs qu'un prêtre et un ecclésiastique sont ce soir en garde à vue après cette messe organisée samedi à Paris. Un office de 4 heures durant lequel on a vu des prêtres et des fidèles sans masque, très proches les uns des autres. Le diocèse de Paris s'était dès ce week-end dit stupéfait devant le non-respect évident des gestes barrières.
Il l'avait promis pendant la crise des Gilets jaunes. Emmanuel Macron s'attaque donc à l'ENA.
Le chef de l'État a présenté cet après-midi les grandes lignes de sa réforme. L'ENA, l'École nationale d'administration, va devenir l'ISP, Institut du service public. Mais il n'y a pas que le nom qui va changer, Marie-Bénédicte Allaire.
Bah effectivement, d'abord les futurs hauts fonctionnaires formés par l'ISP auront un tronc commun d'enseignement avec une douzaine d'autres grandes écoles pour construire une culture commune. Il y aura toujours un concours d'entrée, un classement de sortie, mais les meilleurs éléments ne pourront plus opter directement pour les grands corps d'État comme la Cour des comptes ou pour les fonctions de direction. Il faudra d'abord se frotter au terrain plusieurs années, de préférence dans les départements. Il s'agit aussi de diversifier le recrutement, d'attirer des jeunes de milieux modestes avec les prépas talents et des aides matérielles, mais aussi de nouveaux profils dont l'État a besoin et qui vont plus facilement vers le privé. Les passerelles seront facilitées entre les différents corps et les différents métiers. Emmanuel Macron veut ainsi rendre l'administration plus attractive. Il veut aussi réconcilier les Français avec elle en la rendant plus proche et plus concrète. À l'Élysée, on parle même de révolution. Ces changements entreront en vigueur dès l'an prochain. Emmanuel Macron pourra dire qu'il a réformé l'État pour la prochaine campagne présidentielle.
Marie-Bénédicte Allaire du service politique d'RTL à l'Assemblée. Ambiance électrique cet après-midi. Les députés examinent la proposition de loi sur un droit à l'euthanasie. Texte qui ne devrait pas être voté compte tenu du nombre d'amendements déposés. Près de 4000, dont 2300 par 5 députés LR. Une manœuvre d'obstruction dénoncée en images par l'auteur du texte, Olivier Falorni. Écoutez.
Aujourd'hui, le visage de l'Assemblée nationale, il est là, devant moi. Ce sont ces 4000 amendements. Ces 4000 amendements, mes chers collègues, ces feuilles, elles n'ont qu'un but, d'empêcher l'Assemblée nationale, d'empêcher les représentants de la nation, d'empêcher les députés de voter ici, souverainement. Voilà l'image que vous donnez.
La colère d'Olivier Falorni à l'Assemblée nationale.
Quasiment une encyclopédie devant lui, tous les amendements, on entendait taper dessus.
Propos recueillis pour RTL par Jacques Seret.
Dans un instant, on revient sur cette nuit de gel catastrophique. Certains arboriculteurs, vous le disiez en titre de la Drôme, ont tout perdu, ou presque.
RTL Soir, Thomas Soto. RTL Soir, Thomas Soto.
18h09, la suite du journal Amandine Bégaud et le froid donc qui, ces derniers jours, a anéanti des mois et des mois de travail.
Dans la Drôme notamment, il a fait la nuit dernière moins 5 à moins 6 degrés du jamais vu depuis 2003. En trois jours, certains arboriculteurs ont perdu la quasi-totalité de leur récolte, 80 à 90% Serge Puyot.
Sur la commune de Pont de l'Isère, Julien Armand, 38 ans, qui exploite un verger d'une vingtaine d'hectares, s'est battu toute la nuit pour tenter d'éviter le pire, en vain.
On a allumé les bougies, c'était minuit et demi, pour les éteindre à 8h30 du matin. Quoi. Ça n'a pas suffi, l'épisode était beaucoup trop fort et puissant. La température sont descendues à moins 3, moins 4 pendant 6-7 heures de fil. Donc les conditions étaient réunies pour tout détruire sur son passage. Quoi. L'entière totalité de la récolte des abricots, certainement une grande majorité des fleurs de cerises et de pommes. Les dégâts sont énormes. Ouais. Ah ouais.
À la Roche de Glun, Bruno Darnaud a vu lui aussi ses 10 hectares d'abricotiers ravagés par le gel.
Je prends cet abricot, vous voyez, il est déjà un peu noir. Je vais y mettre un coup de dent au milieu, tout simplement. Et je vais constater, malheureusement, que le noyau, il est gelé, il est marron et le fruit ne va plus se développer. Dans cette région, on peut dire qu'on a eu deux gels importants en 2008-2003. Et même là, on pense que c'est peut-être plus important que ces années-là, qui étaient déjà des années références. Aujourd'hui, c'est pas le moral, parce qu'il va falloir rebondir, mais ça va être compliqué, quoi.
Les arboriculteurs touchés espèrent des aides des pouvoirs publics pour passer ce cap difficile.
Un reportage signé Serge Puyot dans les vergers de la Drôme. Demain encore du froid, Peggy nous le disait, mais a priori, plus de gel.
Le foot, oui. Après leur victoire 3-2 hier soir face au Bayern Munich en Allemagne, Et ben les joueurs du PSG vont devoir s'y remettre bien vite. Hein.
Oui, le prochain match pour eux, c'est samedi face à Strasbourg en Ligue 1. À peine le temps de souffler, Nicolas Georgerot.
Oui, passé l'euphorie de ce succès, dans 48 heures déjà, les Parisiens seront à Strasbourg avec une obligation de résultat. C'est un autre défi en soi. Éviter d'être décroché en Ligue 1 alors que Mbappé et ses partenaires comptent 3 points de retard sur Lille. Calendrier sans temps mort, le Bayern sera au Parc des Princes mardi prochain. Maintenir la cadence tout en gérant la récupération des uns et des autres, c'est l'équation à remplir pour Pochettino. Neymar, suspendu 2 rencontres en championnat, ne sera pas du déplacement en Alsace, tout comme Marquinhos, blessé à la cuisse hier soir. Le capitaine parisien va passer des examens demain. Les délais sont courts pour le remettre sur pied. Le Bayern, de son côté, a quasiment acté 2 forfaits supplémentaires. Süle, le défenseur, Goretzka, le milieu de terrain, ont peu de chances de voir Paris.
Nicolas Georgerot du service des sports de RTL.
La bonne nouvelle.
RTL Soir, la bonne nouvelle du jour.
Et deux bonnes nouvelles.
Ah, bah alors deux jingles, alors s'il y a deux bonnes nouvelles.
RTL Soir, la bonne nouvelle du jour.
Carnet rose d'abord dans la famille Griezmann, le footballeur, papa pour la 3e fois, une petite Alba qui
très
est
joli,
née
prénom.
Un 8 avril. Comme son frère et comme sa sœur. Il y a 3 enfants, tous les 3 nés à 8 avril différents.
C'est incroyable, ouais. Mais pas la même année.
Ben non, justement. Ce ne sont pas des triplés. C'est pratique pour les anniversaires quand on
oublie,
par exemple.
C'est vrai que s'il oublie, il oublie tout le monde. Quoi.
Voilà. Autre bonne nouvelle, les contes de fées existent. Un autre champion en a fait la démonstration. Ce champion, c'est Shaquille O'Neal, le basketteur.
Oui.
Il a joué les Pères Noël dans une bijouterie, Lionel Gendron.
Oui, hésiter peut avoir du bon, à condition d'avoir un Shaquille O'Neal pas très loin. L'homme que l'on entend dire merci, c'est le vendeur qui récupère la carte bleu, enfin sans doute la carte platinium de l'ancienne star NBA. Le Shaq était venu acheter des boucles d'oreilles. Il a vu un jeune homme hésiter devant une bague de fiançailles. Le prix semblait trop élevé pour lui. La suite est racontée par celui qui est désormais consultant pour la télévision.
J'ai vu ce mec timide, il posait des questions sur le prix. Je lui ai dit, c'est quoi? Dis à ta petite amie, c'est bon, j'en occupe. Au début, il voulait pas, mais je lui ai dit, t'inquiète, je fais ça tous les jours. J'essaie de donner du sourire aux gens.
On ne connaît pas le prix de la bague, mais on imagine déjà certains Américains épier la moindre course de Shaquille O'Neal, hésiter devant une voiture de luxe ou une agence de voyage. Si, comme il le dit, il fait ça tous les jours, ça se tente.
Et voilà, vous savez ce qu'il vous reste à faire.
Vous mettez Shaquille O'Neal sur votre GPS.
C'est
hein.
Ça. Récit signé Lionel Gendron, le correspondant d'RTL aux États-Unis.
Merci Amandine, à tout à l'heure. C'est un verre qui a viré macroniste, mais l'est-il toujours? Dany Cohn-Bendit est l'invité d'RTL Soir tout de suite.
RTL Soir.
RTL Soir, Thomas Otto.
Il est ancien député européen, il est l'un des fondateurs d'Europe Écologie Les Verts. Dany Cohn-Bendit est l'invité d'RTL Soir. Bonsoir et bienvenue à vous, Dany Cohn-Bendit.
Bonsoir Thomas.
Je voudrais pour commencer avoir votre sentiment sur ce qui s'est passé mardi en Turquie lors du rendez-vous entre le président turc Recep Tayyip Erdogan, le président du Conseil européen Charles Michel et la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen, relayés sur un pauvre canapé quand les deux hommes semblaient assis chacun sur leur trône. Qu'est-ce qu'elle vous inspire cette image? Qu'est-ce qu'elle dit? Certains parlent d'une humiliation pour l'Europe.
Non, c'est surtout d'abord une humiliation pour Louis Michel. Enfin, c'est incroyable. Cet homme, le président du Conseil européen, n'a aucune sensibilité, de respect. C'est-à-dire qu'une fois qu'il a vu qu'il y avait 2 sièges, il aurait dû rester debout, il aurait dû dire à Madame, attendez, asseyez-vous là, et se mettre sur le canapé, ou rester tous les deux debout, mais en tout cas, signifier à Erdogan que ça va pas, ce machisme... vraiment, il ne le supporte pas. Malheureusement, non seulement il l'a supporté, mais il l'a accepté. Et Mme von der Leyen ne pouvait pas faire autre chose que de se mettre sur le canapé.
Mais Dany Cohn-Bendit, Nathalie Loiseau, la députée européenne, a vu dans cette séquence une version turque de l'islamisme politique radical. Elle a dit que Recep Tayyip Erdogan était un mufle. C'est pas votre lecture des choses, du coup?
Louis Michel aussi était un mufle. Enfin, il vraiment, quand il voit qu'il y a 2 chaises, il est là avec Ursula von der Leyen. Il est évident qu'il ne va pas s'asseoir sur la 2e chaise. Enfin, c'est la moindre des choses. C'est là, donc, moi, je veux bien que c'est un mufle de l'islamisme, et je ne sais pas, c'est un mufle machisme normal de Louis Michel.
Charles Michel, hein, mais c'est...
Alors, Charles,
envie de
pourquoi
Louis,
oui, je ne sais pas.
Vous avez envie de l'appeler Louis depuis tout à l'heure, mais ce n'est pas grave.
C'est pas grave.
Dany Cohn-Bendit, cette Europe que vous aimez tant, on a l'impression qu'elle a tout faux en ce moment. Le rendez-vous des vaccins, c'était une occasion de voir l'Europe concrète, l'Europe dans la vie des gens, l'Europe efficace, et on ne voit que l'Europe du flop, qui ne sait pas gérer ses commandes. Comment vous vivez ça?
Je sais que c'est facile. Bon, l'Europe sûrement a fait une erreur en ne mettant pas le paquet sur plusieurs, disons, vaccins. Mm-hmm. Mais pour l'instant, maintenant, ça augmente. Pour l'instant, ça avance. Donc, c'est vrai qu'il y a un mois ou deux de retard. Mais l'Europe garantit à tous les États membres quand même des doses. Et si on ne s'était pas, on le faisait pas par l'Europe, ça aurait été la catastrophe. Mmh. La France en aurait eu moins que l'Allemagne, qui aurait eu plus de types. Donc, oui, au début, ça a été difficile parce que l'Europe, et là peut-être il y a une responsabilité de la France et de l'Allemagne, l'Europe attendait que Sanofi ait ses vaccins, ça n'a pas marché. Elle se réservait une partie de ses fonds pour Sanofi et l'Allemagne CureVac, mais ça dure, hein, ça commencera que l'été prochain. Donc là, il y a eu des erreurs, mais il faut pas non plus
globalement,
trop
elle a fait le job.
Comment?
Globalement, elle a fait le job.
Globalement, elle fait le job maintenant. Au début, ça a été difficile parce que elle n'a pas osé mettre beaucoup plus et même. Au cas où s'il y en avait trop après les données, disons, en Afrique, etc. Donc là, elle a fait une erreur, mais en ce moment, elle fait le job. Mmh. En ce moment, le nombre de vaccins augmente dans toute l'Europe, en Allemagne, en France, etc. Et les paris que en juin, on aura 30 millions, 34, 35 millions de vaccinés en France, et l'équivalent ou un peu plus en Allemagne, montre que l'Europe fait le job.
Mmh. Il y a un débat en ce moment, au moment où on se parle au Parlement français, pour le coup, à l'Assemblée nationale, sur l'euthanasie. Est-ce qu'il faut, selon vous, légaliser l'euthanasie en France, Danny Cohn-Bendit ?
Écoutez, moi j'ai lu, je crois que c'était Houellebecq qui a fait
une tribune dans
un article, mais vraiment incroyable, incroyable. Est-ce que la Suisse est un pays barbare ? Est-ce que la Belgique est un pays barbare? Évidemment que tous ceux qui veulent continuer à vivre ont le droit et on doit les aider de toutes les manières. Mais moi, ma liberté à moi. Et ce qui est intéressant, c'est la Cour suprême allemande qui a dit le droit d'en finir avec sa vie est un droit de liberté fondamentale des individus. Donc je comprends pas. Il est évident qu'on n'a pas le droit d'obliger quelqu'un à en finir. Mais de quel droit on m'oblige, moi, à ne pas pouvoir en finir? Si je n'ai pas, hein, mais si j'avais un cancer terrible, du pancréas, etc., et je ne veux pas subir une, deux, trois opérations, c'est ma liberté à moi. J'ai quand même le droit, moi, de dire non, je ne veux pas passer dans les trois dernières années de ma vie 3 années à l'hôpital. C'est mon droit à moi.
Vous voulez pouvoir avoir le choix, on entend bien. Autre sujet dans l'actualité...
C'est
comme l'avortement.
Il faut avoir le choix. Les femmes ont le choix. Ont le choix pour des raisons X, Y, Z. Personne n'a le droit d'obliger une femme à avorter. Mais en quoi on a le droit d'interdire aux femmes d'avorter? Et c'est la même chose pour la fin de la vie.
On va parler un petit peu politique avec vous quand même, Emmanuel Macron. Danny Cohn-Bendit. Vous avez voté...
C'est sympa, continuez.
Vous avez voté
Charles et maintenant vous vous dites Emmanuel. D'accord.
On est bien ce soir. Ouais. Vous avez voté Emmanuel Macron en 2017. Est-ce que vous revoterez Macron l'an prochain? Est-ce que vous êtes toujours macroniste?
C'est difficile en ce moment d'être macroniste. Mais le problème, c'est encore plus difficile d'être pour quelqu'un d'autre. C'est ça mon problème. Enfin, regarder à gauche, c'est effrayant. Et moi, vraiment, mon angoisse, c'est la victoire de Marine Le Pen. Mmh. C'est la victoire de Marine Le Pen.
Elle va gagner, a dit Arnaud Montebourg. Elle va gagner parce que
oui,
Macron
celui-là,
n'est
il a vraiment,
pas un rempart.
C'est d'une débilité incroyable. Arnaud Montebourg voulait être candidat. Il voit qu'il a aucune chance. Eh bien, il dit nanana, nanana, parce que moi, je suis pas candidat. Eh bien, Marine Le Pen va gagner. Non, mais il faut arrêter avec ces folies. Il faut... Marine Le Pen... peut gagner, mais elle ne va pas gagner si tout le monde se ressaisit. Donc on verra bien, on verra quels seront les candidats. Mais aujourd'hui, j'ai beaucoup de critiques à faire à Emmanuel Macron. Pourquoi il fait pas la proportionnelle? Pourquoi, même sur les problèmes de société, les drogues, sur l'immigration et tout ça, je crois qu'il doit se ressaisir. Je crois qu'il peut aller plus loin dans la transition écologique. Tout ça, c'est vrai, je le critique. Je le dis ouvertement, je lui dis personnellement. Mais si je me retourne après, je dis, oui, mais qui? Qui, quoi, comment contre Marine
Le
Pen?
Vous entendez tous ceux qui disent, j'ai voté Macron une fois, je ne le ferai pas une deuxième fois, et entre Macron et Le Pen, je ne choisirai pas l'an prochain?
Écoutez, vous savez que je suis allemand. en Allemagne, en 1933. Je sais que Marine Le Pen, ce n'est pas Hitler. Je sais. Mais au moment où on a voté Hitler, on ne savait pas ce que donnerait Hitler. Donc en 1933, quand il y a eu les élections après, quand la gauche, les communistes, la gauche de la gauche ont dit « Mieux vaut laisser passer Hitler et après on réglera son compte à Hitler une fois qu'on a réglé son compte à la social-démocratie », ça c'est une erreur. Deuxième exemple, quand la gauche de la gauche américaine n'a pas voulu voter pour Hillary Clinton, elle n'était pas une bonne candidate. Moi je crois que Biden aurait été un meilleur candidat déjà à l'époque. Mais ne pas voter pour Hillary Clinton, c'était faire passer Trump. Et la piqûre a été sévère. Donc il faut arrêter avec ces folies. Si ceux qui ne veulent pas voter Macron et ni Marine Le Pen, eh bien qu'ils sachent se mettre ensemble pour faire émerger une candidate ou un candidat.
Et si c'est Édouard Philippe, tiens, il vous plaît? Vous avez aimé son retour? Vous avez regardé un peu tout ça?
Ouais, moi je trouve ça un peu... Qui c'est qui me disait toujours? Il est quand même sur le banc des remplaçants. Hein. Il est sur le banc parce que... Pour être le candidat de la droite, vous croyez que les Républicains aujourd'hui qui l'a trahi vont le nommer candidat de la droite? Et que Xavier Bertrand va dire « Ah, Édouard, je t'attendais, évidemment que je me retire ». Et d'un autre côté, je ne vois pas Édouard Philippe être candidat contre Emmanuel Macron. Mmh. Ça serait complètement... Donc, il se fait mousser, il a le droit. Il passe sur les médias et tout ça, mais je ne vois pas aujourd'hui une candidature crédible d'Edouard Philippe.
Dernière question, la suppression de l'ENA annoncée par Emmanuel Macron aujourd'hui, ça vous intéresse ou...
Ce qui m'intéresse, c'est ce qu'il va mettre à la place. L'ENA était quand même une spécialité très française. On forme des fonctionnaires dans les autres pays sans qu'il y ait l'ENA ou l'équivalent de l'ENA. Donc, on peut se former dans les universités, etc., etc., avec des diplômes. Donc, qu'est-ce qu'il va mettre à la place? Est-ce qu'on a besoin de cette spécificité française? Je n'en suis pas sûr, mais maintenant, j'attends de voir.
Merci, Dany Cohn-Bendit, d'avoir été en direct de Francfort avec nous dans RTL Soir. Merci beaucoup. À suivre,
merci, Thomas.
L'œil de Philippe Cavrivière. Bonsoir, Philippe.
Bonsoir, Pédé.
Plein troisième confinement, mais le bout du tunnel est fixé à peu près à la mi-mai, hein, d'après Emmanuel Macron.
Vous parlez de l'épidémiologiste Emmanuel Macron, bien sûr. Ou enfin, le 15 mai, c'est la carotte. On est des ânes, à chaque fois, on nous recule la carotte pour nous faire avancer. Et Nathalie Saint-Cricq me le disait encore hier soir. Bon, la carotte, j'ai plus l'impression qu'elle soit derrière. Hein.
Oh non.
On essaie de nous la caler. Je dis, hop. Merci, Nathalie. Bref, on rêve de la fin des gestes barrières, d'arrêter de se laver les mains 10 fois par jour, redevenir crados, comme notre belle ville de Paris.
Oh, ben voilà. Allez, on détaille tout ça et on développe tous ces titres d'actualité à la sauce Cavrivière juste après le rappel des titres à 18h30. À tout de suite.
RTL Soir.
18h30.
RTL Soir avec Thomas Soto
et Amandine Bégaud pour le rappel des titres.
Et la France a franchi aujourd'hui un nouveau cap dans la vaccination contre le Covid. Plus de 10 millions de primo-vaccinés. Prochain objectif répété aujourd'hui par le Premier ministre. 20 millions d'ici la mi-mai. Dans les hôpitaux, la situation reste grave, mais le porte-parole du gouvernement évoque des chiffres encourageants dans les 16 départements semi-confinés depuis le 20 mars, l'Île-de-France et les Hauts-de-France notamment. L'actualité, c'est aussi l'ENA, bientôt rebaptisée ISP, Institut du Service Public. Emmanuel Macron a présenté cet après-midi les grandes lignes de sa réforme. Et puis aux États-Unis, peut-être un tournant dans la lutte contre le fléau des armes à feu. Une épidémie, dit ce soir Joe Biden. Le président américain réclame l'interdiction des fusils d'assaut pour les particuliers. Aujourd'hui, un Américain sur trois a au moins une arme à feu.
La météo, Peggy Broche. Demain, c'est vendredi et ça va rimer avec parapluie.
Exactement, surtout sur l'ouest, puisqu'on a une perturbation qui arrive entre la Bretagne, les pays de la Loire. Du sud-ouest au centre, des averses qui vont s'étendre également jusqu'au nord-est dans la journée. Beaucoup de nuages, quelques averses, un peu de vent, des entrées maritimes sur le golfe du Lion jusqu'au massif central. Pareil, un ciel chargé et de l'humidité. Et ailleurs, ça restera plutôt beau et sec sur le nord et sur l'est. Côté température, quasiment plus de gelée, sauf sur le nord-est, mais vraiment des toutes petites gelées. Et maximales, elles seront 12 de 13 à Cherbourg, à 22 à Bordeaux, 18 à Paris, Lyon et Perpignan.
Merci Peggy. L'œil du jeudi, c'est celui de Philippe Cavrivière. Il en ouvre un le mardi et un le jeudi dans RTL Soir. Philippe, qu'est-ce que vous regardez? Qu'est-ce que vous faites là?
Je vérifie que toutes les femelles du studio ont bien trouvé une place assise. Sinon, ça va encore faire des histoires. Comme Ursula von der Leyen chez Erdogan, qui nous a fait tout un pataquès pour un fauteuil alors qu'elle avait un canapé 12 places. Si ça se trouve, il faisait clic-clac, elle aurait même pu s'allonger, maman. Oh, j'en parlais avec Pierrot Ménès. Qu'est-ce qu'elles sont soupe au lait, les bonnes femmes, en ce moment? Oh, c'était plutôt sympa ce jeu de chaise musicale en Turquie avec moustache là. Alors, la musique s'est arrêtée, Ursula est restée debout. Bon, elle a perdu. Mauvaise joueuse, va. Elle nous fait un saut faguette là. Tant que PPDA n'a pas fait un pissou dessus, on peut se mettre sur un sofa. Il n'y a pas de quoi chouiner.
Bon, alors vous avez quand même trouvé une bonne nouvelle dans l'actu. Ça y est, la production ou la quasi-production de vaccins anti-Covid a commencé chez nous en France.
Ça, c'est génial, Thomas. Il y en a marre du French Bash.
Carrément.
On peut encore gagner la course au vaccin.
Alors attention. On ne produit pas le vaccin. On est juste en gros en charge de l'enflaconnage, quoi. On applique la recette.
Ah merde. Ouais. On fait l'enflaconnage.
Oui.
C'est nous qu'on met dans la bouteille, quoi.
C'est ça.
Et on rebouche pour pas renverser.
On fait attention.
Une mission de confiance. On est les bonniches des Allemands, quoi.
En quelque sorte. L'actu cette semaine, Philippe, c'est aussi la compagne de Michel Fourniret, Monique Olivier, qui révèle les détails de l'enlèvement d'Estelle Mouzin.
Je sais plus quoi faire avec cette actu, Thomas, moi.
Vous me faites peur.
Le Covid, l'euthanasie, Estelle Mouzin. Là, depuis hier, la pauvre Aurélie Vaquier est tuée par son salopard de compagnon. Je ne sais pas comment mettre un rayon de soleil dans l'info quand on parle d'un corps retrouvé sous une dalle. En chanson, peut-être ? Sous la dalle ensoleillée,
Philippe.
Coquillage et crustacé. Ben non, ça marche pas, c'est un féminicide.
Non, ça marche pas.
Ben
ça
non.
Marche pas.
Ouais. Alors je rappelle qu'il y en a 90 de trop par an des féminicides et qu'il n'est jamais trop tôt, mesdemoiselles, pour se barrer. Barrez-vous quand vous êtes avec un con et composez le 39-19.
Il y en a plus que 90. Oui. Hein. Ouais.
L'année dernière, 126 il y a 2 ans.
En tout cas, il y en a trop.
Ouais. Sous la dalle, ça passe moins bien le téléphone. Alors appelez tout de suite. Voilà. Alors, revenons à une actu plus joyeuse. Michel Fourniret.
Oui.
Alors mon Michel qui doit être...
C'est vrai que là, tout de suite, on a la banane.
Tout de suite, ah oui, ça met la patate, on dit sinon. Alors mon Michel qui doit être bien déçu par son ex-compagne. Quelle saleté, cette Monique Olivier. Elle balance tout. Ils faisaient un si joli petit couple. C'était les Brangelina du crime champêtre. Heureusement qu'il est en prison, mon Michel, parce qu'il serait tellement frustré avec cette règle des 10 km. Lui qui aime tant se balader... En berlingot et faire du covoiturage.
Bon, allez. Philippe, essayez encore de mettre un peu de soleil dans cette chronique. Qu'est-ce que vous avez trouvé d'autre comme actu, s'il vous plaît ? Nouvel essai.
Il me reste un peu d'euthanasie, je vous le mets quand même.
Ouais, allez-y.
L'euthanasie, l'IVG des vieux. Hollande a fait le mariage pour tous. Macron va peut-être faire la mort pour tous. Bah, c'est moins joyeux tout de suite. Mais moi, j'aime bien la loi Leonetti. Alors, je ne sais pas ce qu'il y a dedans. Mais j'aime bien. Leonetti, ça sonne bien, ça sonne entre Leonidas et Chocoletti.
Ah ouais, là, on est du très haut niveau.
Chocolaterie, voilà. Alors, c'est une vraie question philosophique. On meurt de plus en plus à l'hôpital. Nous ne sommes que 30% à mourir à la maison. Alors, il y a beaucoup de gens qui disent bah, c'est plus digne de mourir chez soi. Ouais, va expliquer ça à la famille de Ligonnès. Je suis pas sûr qu'ils aient kiffé. Alors, on a tous vu ces images en Suisse ou en Belgique de malades qui décident du moment de l'injection létale. C'est douloureux, mais on sait que...
Les produits létals sont nos amis pour la mort.
Oui, bien chanté par Grégory. Mais c'est les produits létaux, mais la vanne marche moins bien si on fait...
Je suis pas sûr que ce soit la faute d'orthographe qui choque le plus, en fait.
Moi non plus.
Bon, quelques mots encore. On va essayer de cette messe de Pâques sans masque et sans geste barrière qui a fait polémique à Paris.
Oui, des fidèles et des prêtres n'ont pas respecté les gestes barrières dans une église. Ça, c'est le problème des cathos. Ils ne veulent pas s'intégrer. Mais entre nous, vous ne trouvez pas qu'il y a un peu trop de cathos en France ? Attention, pas d'amalgame. Hein. Tous les cathos ne sont pas des terroristes sanitaires. Et étrangement, ça ne se bouscule pas au RN pour critiquer cette messe. Vas-y Marine, à toi l'honneur. Non, je ne peux pas, j'emmène mon chat chez le veto. Vas-y Jordan Bardella. Ah non, mais je peux pas, j'ai dîné chez Pierre-Jean Chalençon. Non, la vraie question, c'est qui a donné leur autorisation d'enlever les masques ? Le prêtre, peut-être ? Chers paroissiens, ouvrez vos bibles, page 24, psaume 12. Évangile de Jésus selon saint Luc. Pierre dit à Luc, « Luc, Jésus a-t-il dit, lève-toi et masque ?» Non. Jésus a-t-il changé l'eau en gel hydroalcoolique ? Non plus. Jésus est-il allé en réa pour ressusciter ? Pas davantage. Si on te tend le coude, Luc, ne tend pas l'autre coude. Mais si on te tend le Luc, c'était trop tentant. Assure-toi qu'il soit majeur. Bref, si les gars changent les textes de la Bible, c'était pas prudent cette histoire. Mais après tout, si les prêtres veulent pas mettre de masque, qu'ils mettent pas de masque, tant qu'ils mettent des capotes. Alors, et qui laisse les gamins et les chansons de Goldman tranquilles, parce que les prêtres ont repris puisque tu pars.
Ah bon ?
Ça, c'est, ah, c'est terrible.
Ouais,
c'est terrible.
Ouais, ça, c'est un vrai problème. La polémique continue sur ces dîners clandestins, aussi organisés par Pierre-Jean Chalençon. M6 confirme la présence d'un ministre. Le gouvernement continue à nier.
Comment remettre en cause la parole d'M6 ? La plus grande chaîne d'Europe. Toujours le groupe RTL ?
Oui. Ben,
ils ne peuvent pas mentir. Bon, il y a sûrement un ministre qui va sauter. Alors, se faire virer comme Cahuzac pour des comptes en Suisse ou à Singapour, d'accord. Mais pour avoir bouffé des vieilles endives à 400 balles, avouez que c'est couillon. Apparemment, Pierre-Jean Chalençon, les casseroles qu'il a au cul, il s'en sert pour organiser des dîners clandestins. Des dîners presque parfaits. Aujourd'hui, c'est au tour de Pierre-Jean d'impressionner ses convives avec un repas qui a pour thème « Dîner clandestin ». Au menu, des plats de cantine qu'il leur fera payer le prix d'un SMIC. C'est ce soir, dans un dîner clandestin presque parfait.
Merci beaucoup, Philippe Cavrivière. Et on vous retrouvera samedi soir chez Laurent Ruquier sur France 2, puis mardi prochain avec nous. Merci à vous.
Je vous en prie.
Sa mère, l'écrivaine Anne Baire, a choisi l'euthanasie pour se libérer de l'enfer de la maladie de Charcot. Elle avait expliqué pourquoi à l'époque. Aujourd'hui, alors que le sujet revient sur le devant de l'actualité, c'est sa fille, Roxane Guichard, qui a décidé de parler. Elle est l'invitée d'RTL Soir, tout de suite.
RTL Soir.
Thomas Soto,
RTL Soir.
Sa mère, l'écrivaine Anne Baire, atteinte de la maladie de Charcot, a choisi d'être euthanasiée en Belgique. C'était il y a 4 ans. Elle avait alors 59 ans. Roxane Guichard est l'invitée d'RTL Soir. Bonsoir et bienvenue à vous, Roxane Guichard.
Bonsoir.
L'Assemblée nationale débat en ce moment de la proposition de loi qui propose de légaliser l'euthanasie. Pourquoi aujourd'hui accepter de prendre la parole sur ce sujet, vous qui avez tant souffert des conditions dans lesquelles votre mère est partie ? C'est pour reprendre le flambeau, en quelque sorte ?
Oui, disons que à l'époque j'avais refusé pas mal d'interviews, etc. quand c'est arrivé sur le moment parce que j'avais été beaucoup sollicitée.
Ouais.
Puis petit à petit ça s'est tari et aujourd'hui, à chaque fois que le sujet revient sur la table, j'essaie de me faire un devoir de continuer à porter cette demande, de pouvoir, quand on est dans cette espèce d'entre-deux dans lequel elle était, bénéficier d'une aide à mourir.
Alors, je précise que c'est un devoir, le devoir d'une mère par rapport à la mémoire d'une fille, pardon, par rapport à la mémoire de sa mère. Est-ce que vous êtes membre d'aucune association sur la fin de vie ?
Non, pas du tout. Je le fais vraiment en tant que témoin. Je viens témoigner de ce qu'on a vécu et j'essaye d'expliquer autant que je peux oui. à tous ceux qui voudront bien m'écouter que ma mère ne rentrait pas dans le cadre de la loi Claeys-Leonetti et qu'elle s'est retrouvée à devoir aller à l'étranger. Et encore, on a pu le faire parce qu'on avait les moyens financiers, intellectuels, etc. Mais qu'il y a plein de gens qui se retrouvent tout simplement à mourir, suffoqués, etc. pendant très longtemps avant d'avoir le droit et d'être suffisamment mourant pour aller en soins palliatifs et là bénéficier d'une sédation continue en fait.
Ce sont les cas où le dispositif de sédation profonde de la loi Claeys-Leonetti ne suffisent pas en fait. Hein. Je voudrais qu'on la réentende, votre mère Anne Baire. Je l'avais interviewée à l'époque, c'était sur Europe 1. C'était 6 mois avant sa disparition et voici ce qu'elle disait.
C'est ce que j'appelle la double peine. Moi, je sais que je suis condamnée par ma maladie, mais en plus, je dois chercher une porte de sortie hors du pays, hors de mon pays, parce que je ne peux pas le faire en France. Et vraiment, c'est une horreur de devoir faire ça. C'est une horreur ajoutée à l'horreur de la maladie. Et si je pouvais, ne serait-ce que faire un tout petit quelque chose pour que cela ne se reproduise plus à l'avenir, que les gens puissent finir leur vie tranquillement, le plus sereinement possible, entourés des leurs, dans leur pays.
Ce combat qu'elle a mené, Roxane Guichard, ça lui a gâché sa fin de vie, qui était déjà très difficile. Ça a gâché aussi ces derniers instants que vous pouviez passer avec elle.
Alors en tout cas, ça nous a gâché sa fin de vie. Et oui. Après, elle, pour être honnête, je pense que ça l'a aussi portée. Oui. C'est-à-dire qu'elle s'est trouvée, alors qu'elle était atteinte d'une maladie injuste qui lui coupait les ailes alors qu'elle n'avait que 59 ans, cette espèce d'injustice l'a poussée jusqu'au bout. Après, peut-être un mois avant de mourir, là, elle a commencé à dire « je ne veux plus donner d'interview, voilà, je me ressens sur moi-même ». Et effectivement, je ne suis pas sûre qu'elle, ça lui ait gâché tant que ça. Mais nous, ça nous l'a gâché. Elle, ça l'a portée, mais en même temps, ça l'a détruite parce qu'elle s'est fatiguée énormément. Elle a fait beaucoup oui. de voyages à Paris pour venir faire le tour des télés, des radios. Elle a écrit un livre. Ça lui a pris énormément d'énergie.
Mmh. Et vous, il y avait quoi à cette époque-là ? Il y avait de la colère, il y avait du désespoir. Comment vous viviez ces moments-là ? Qu'est-ce qu'on se dit ? On se dit, c'est évidemment, il y a l'injustice majeure de la maladie, mais au-delà de ça, le fait qu'il faille se battre pour qu'elle puisse finir dignement.
Oui, alors la colère, bien sûr, il y avait une colère sourde contre cette injustice, etc. Et il y avait surtout une colère quand on entendait les arguments des gens qui étaient contre l'euthanasie, on va dire, pour, à défaut d'autres mots. Mais parce que, en fait, systématiquement, ces gens-là argumentent à côté et disent toujours que les cas comme ma mère sont des cas exceptionnels. Mais dans ces cas-là, ça veut dire quoi ? Il y a plein de cas exceptionnels dans la vie. On ne dit pas oui, mais ces gens-là ne seront pas dans la société. Ces gens-là, on ne légifère pas pour eux. Mmh. On ne peut pas laisser des gens comme ça sur le côté. Donc oui, on était. Enfin, moi, en tout cas, j'étais assez en colère. et clairement, ma mère avait une colère maîtrisée et froide, mais c'était quand même une colère.
Mmh. Et ça veut dire que vous ne comprenez pas que certains soient choqués, soient heurtés par le principe de l'euthanasie, qu'ils s'y opposent aujourd'hui, vous...
Ah si, si. Alors, non, mais je comprends totalement qu'on puisse être, par conviction religieuse ou par conviction personnelle, par éthique personnelle, contre. Simplement, il y a des arguments que je ne comprends pas. Par exemple, moi, ça ne me dérange pas que quelqu'un dise, intellectuellement, je ne peux pas être pour qu'un médecin donne la mort. Ça, je peux l'entendre. Oui. Et c'est un point de vue, il vaut le mien. Et après, c'est plus en démocratie. Et si jamais la majorité des députés votait non, moi, je l'accepte, il n'y a pas de problème. Oui. Ce qui me gêne, c'est quand les gens disent on va transformer la France en une machine à euthanasier. Ou quand les gens disent que les gens qui réclament l'euthanasie, comme ma mère, sont des gens qui trouvent que c'est indigne de mourir dans des soins palliatifs, etc. On n'oppose pas une mort à une autre. Toutes les morts et toutes les fins de vie sont compliquées et douloureuses. Elle demande juste qu'elle, en disant qu'elle ne peut plus supporter la vie et qu'elle veut mourir, et que même si elle suivait la loi française, elle ne pourrait pas faire ça. Elle aurait dû dépérir, enfermée dans son corps, en sanglotant tous les jours et en refusant de s'alimenter.
On reste toujours le petit garçon ou la petite fille de ses parents, Roxane. Il vous est arrivé de lui en vouloir à votre maman, de vouloir partir, de vouloir accélérer les choses, de vous laisser en quelque sorte?
Oui, bien sûr. Oui. Alors en fait, je ne l'en ai jamais voulu frontalement, mais effectivement, comme tout le monde, je me disais, j'aimerais bien qu'elle attende un petit peu plus, etc. Et quand elle m'a dit, ça y est, j'ai décidé, j'ai trouvé que c'était très tôt. Mais pour autant, je la voyais tellement souffrir. Enfin, que l'un n'était pas mieux que l'autre. En fait, dans ces cas-là, tous les choix sont les pires. Enfin, y a pas de... Mais oui,
psychologiquement, vous l'avez accompagné en Belgique jusqu'au bout.
Oui.
Psychologiquement, comment on vit ça?
Écoutez, j'imagine que ça dépend des gens.
Parce que la mort, par définition, on la choisit pas. Enfin,
oui, voilà. C'est-à-dire que voir mourir ses parents, quel que soit l'âge, quelles que soient les circonstances, ça reste excessivement douloureux. Je parle juste pour moi, j'en sais rien pour les autres, mais c'était des conditions tellement folles. En plus, avec la médiatisation, tellement, c'est tellement bizarre d'un jour prendre un train et de savoir qu'on le prend avec elle et qu'elle, elle ne fera pas le retour avec nous. Enfin, c'est quelque chose de très particulier. Et j'étais dans un mode, pour, à défaut d'autres meilleurs modes, de foncer, c'est-à-dire de faire tout ce que je pouvais pour qu'elle se sente bien. Et donc j'avais l'impression d'aller bien. C'est une fois qu'elle a été morte que c'était très compliqué.
Une fois qu'elle est partie, que c'était plus compliqué, que j'ai réalisé tout ça, j'imagine.
Voilà. Mais jusque-là, j'ai essayé de... Et mon père, tout le monde a essayé de tout faire pour qu'elle, ça se passe le mieux possible.
Ouais. Votre mère avait un tempérament remarquable. Elle a toujours refusé de sombrer dans le misérabilisme. On l'entendait dans ses interviews jusqu'au bout. Son dernier livre, vous l'évoquiez, le tout dernier été chez Fayard, se terminait par ces mots. On n'est pas sérieux quand on va mourir. Parlez-nous, si vous voulez bien, pour finir, de la femme et de la mère qu'elle a été.
Alors elle a été une mère excessivement drôle, originale. Elle a toujours répété qu'elle avait un mode d'emploi pour rien, et elle le disait souvent, même pas pour mourir, elle a souvent dit. Et elle m'a élevée avec beaucoup de liberté, dans les livres, à la côte sauvage, à la mer, avec beaucoup d'humour, beaucoup de champagne aussi. Et beaucoup d'autodérision. Et je pense que c'était une femme avec une forme de charisme. Et que quand elle parlait, elle pouvait irriter, elle pouvait agacer, mais tout le monde l'écoutait.
Ouais. Elle a su rendre sa mort utile, si l'on peut dire. Ça faisait partie de son dernier combat.
J'espère. En tout cas, elle a essayé. Et moi, j'essaye derrière, avec mes plus petits moyens, de faire qu'on ne l'oublie pas tout à fait. Et non pas elle, même si moi, ça me fait plaisir qu'on n'oublie pas et que son nom soit évoqué, mais qu'on n'oublie pas son combat. Et c'est vrai que c'est dommage qu'il y ait une obstruction à l'Assemblée pour ça, parce que je pense que c'est un combat important et qu'il faut qu'on en débatte, même si ça devait être un résultat qui ne me plaît pas.
Ce refus de débat, le principe du refus de débat avec les 2300 amendements déposés notamment par les députés des Républicains, ça vous choque, ça vous heurte ?
Oui, ça me heurte parce que effectivement, quand on voit qu'il y a plus de 270 députés qui jugent que c'est un débat qu'il faut avoir et qu'il faut voter, je trouve ça assez décevant, même si ça fait partie des droits juridiques, d'utiliser ce genre de manœuvre.
Merci beaucoup Roxane Guichard, votre maman s'appelait Anne Baird, elle doit être fière de vous là où elle est. Merci d'être venue nous voir et d'être venue témoigner ce soir.
Je remercie de m'avoir reçu.
Merci infiniment. À suivre la culture de l'actu, Julia Molcou s'installe sur le sofa après les misères d'Ursula von der Leyen lors de sa visite en Turquie. À tout de suite.
Thomas Soto, RTL Soir.
Thomas Soto,
RTL Soir.
Et Julia Molcou pour la culture de l'actu. Bonsoir Julia.
Bonsoir Thomas, bonsoir à tous.
On en parlait tout à l'heure avec Danny Cohn-Bendit, mardi lors d'une rencontre officielle entre les dirigeants de l'Union Européenne et la Turquie. Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission, n'a pas eu droit à son siège, elle n'a pas eu son fauteuil, aux côtés de Charles Michel et du président Erdogan. Elle a dû prendre place à l'écart sur un canapé, c'est le fameux Sofa Gate. Alors ce soir, fauteuil, divan et canapé sont à l'honneur dans la culture de l'actu.
Vous avez bien entendu.
Le macho des canapés.
Exactement. Eh bien, avant Ringo et les machos des canapés, il y avait les privilégiés du fauteuil. Terme qui entre dans le vocabulaire français en 1638. Et justement, à la cour du roi Louis XIII, tout le monde n'avait pas le droit à son fauteuil. Ils étaient réservés au roi et à ses hôtes les plus prestigieux. Les princes de sang prenaient une chaise, les princesses et les ducs un tabouret. Quant aux courtisanes, elles avaient le droit au carreau. Et le carreau, c'est quoi? C'est un coussin jeté par terre.
Oh, je voudrais être un fauteuil dans un salon de coiffure pour dames.
Et bien voilà, ça c'est Nawa Diffusion. Voilà. Alors, avant le fauteuil du coiffeur, il y aura le modèle cabriolet, le régence, le crapaud, le voltaire, le confident, dossier droit, dossier concave, dossier montgolfière, accoudoir ou pas. En fait, à chaque époque, son fauteuil.
Il était là dans ce fauteuil, mon spectateur du premier jour, comme un père débordant d'orgueil, pour celui qui prenait son tour. Il était là
dans
ce
fauteuil.
Michel Sardou, pour ceux qui ne l'auraient pas.
Le cœur tremblant comme une feuille, croyant que je ne savais pas. Il était là.
Puis viendront les modèles iconiques signés des plus grands designers du XXe siècle, Le Corbusier, Ims ou encore Bertoia, sans oublier les noms moins iconiques, bien qu'absents des musées, fauteuil du dentiste ou fauteuil d'orchestre.
Un jour, vous avez plus envie d'être serveuse. Tout le monde comprendra. Mais vous êtes pianiste, personne ne comprend.
J'aurais voulu être une artiste, comme dit la chanson.
Fauteuil d'orchestre, film de Daniel Thompson, avec Julia Molcou, d'ailleurs, il me semble, qu'on vous aperçoit. Et le canapé, alors, est-ce qu'il a une place dans la culture?
Bon, alors depuis un an, on fait presque tout de son canapé. On travaille, on prend l'apéro par Zoom, on regarde des séries, on assiste à des concerts, à des pièces de théâtre. Exactement, on va même au musée sans bouger de son canapé. Mais le canapé n'a pas attendu la pandémie pour entrer dans la culture. Il est l'un des personnages centraux de chaque générique d'ouverture des Simpsons. À chaque fois, il se passe un petit gag autour de ce canapé. Et puis en 1990, dans le film de Didier Kaminka, eh bien le canapé permettait apparemment de gravir plus vite les échelons.
Alors Catherine, si vous ne voulez pas travailler toute votre vie au Tripostal, venez en mini-jupe.
Vraiment, je ne comprends pas pourquoi Mademoiselle Poteau raconte partout que vous êtes un vieux vicelard dégueulasse. Ce qu'elle dit sur vous, c'est...
C'est quoi?
Elle vous surnomme Yvan le pas terrible. Parce qu'il paraît que vous êtes un très mauvais coup. Plus rapide qu'un lapin, plus mon qu'un chewing-gum.
Promotion canapé, c'est ça? Exactement. Avec Michel Sardou d'ailleurs.
Oui, et grâce de Capitani et Eddie Mitchell. Et voilà. Quant au divan...
Oui, le divan.
Pardon, il est oriental. Et au départ, il désignait la salle du conseil dans laquelle se réunissaient les conseillers du sultan turc. Mais en arrivant en France au 18e, il devient un sofa sans dossier ni bras, sur lequel on peut même dormir. Et depuis Freud, qui ne supportait pas que ses patients le fixent et qui donc les a tous fait s'allonger, le divan, c'est la pièce maîtresse de tous les cabinets de psy, dans la vie ou à l'écran. Pensez à la série En thérapie, énorme succès de ce début d'année sur Arte, ou à cette si chouette comédie avec Golshifteh Farahani, un divan à Tunis sorti l'année dernière, Bijoux.
J'ai rêvé de Saddam Hussein, de Mohamed VI, que des dictateurs arabes. Et là, je comprends pas. Pourquoi il y a Poutine?
Tu viens travailler ici.
Quel travail? Il n'y a pas de travail ici.
Passe là mon cabinet sur le toit.
Un cabinet de psychanalyste, on y fait tout.
T'as vu ces brochettes de névrosés là que j'ai au salon? Avec moi, tu deviens millionnaire.
Tu vas pas faire venir les fous chez nous?
C'est des patients que je recevrai chez moi.
Un divan à Tunis, c'est vraiment un film à revoir depuis donc nos canapés. Enfin, et Peggy, ça va vraiment vous réjouir. On en connaît une qui, depuis 1985, attend. Elle attend que le monde change. Elle regarde des images, elle vit des histoires d'avant, mais sans bouger de chez elle. Une visionnaire, en somme. Alors, c'est qui la bosse qui met du Jean-Jacques Goldman trois fois dans la semaine? Philippe Cabrivière, terminé. Moi, je l'ai mis trois fois.
Et du Sardou, tout ça pour faire plaisir au boss.
Oh, excusez-moi.
Elle attend que le monde change.
Je suis vraiment désolée, Peggy.
Elle est faillotte, mais elle le fait bien quand même, Julien.
C'est terminé, on ne terminera plus par Jean-Jacques.
Il n'y a pas l'ombre d'un canapé dans cette chanson, mais quand même.
Si, elle attend que le monde change entre un fauteuil et un divan. On peut réécouter.
Ah oui.
Non, mais attends,
l'ai raté celle-là.
Attends, c'est okay. Juste pour réécouter en fait.
Un point.
Allez, bonne soirée.
Et moi, celle que j'attends, c'est Peggy Brown.